Vous êtes avec SBS French. Les grands titres de ce mardi 28 juin, les dirigeants mondiaux condamnent l'attaque au missile de la Russie contre un centre commercial ukrainien. Un nouveau rapport confirme l'ampleur de manque de main-d'œuvre dans les maisons de retraite pour les personnes âgées en Australie. En sport, Novak Djokovic a fait un retour gagnant à Wimbledon, devenant le premier joueur à remporter 80 matchs chaque fois dans tous les tournois du Grand Chelem. L'OTAN a annoncé son intention de multiplier par plus de 7 le nombre de troupes alliées en état d'alerte élevé en Europe avant son sommet de Madrid. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que la Russie s'était éloignée du partenariat et du dialogue que l'OTAN avait tenté d'établir pendant de nombreuses années. Selon lui, l'augmentation des effectifs d'environ 300 000 hommes est une réponse nécessaire à la réalité de l'agression russe.
Our new concept will guide us in an era of strategic competition. I expect it will make clear that allies consider Russia as the most significant and direct threat to our security.
Les forces russes ont tiré des missiles sur un centre commercial dans la ville de Kremenchuk, dans le centre de l'Ukraine, faisant au moins 10 morts. Plus de 1000 civils se seraient trouvés à l'intérieur au moment de l'attaque, mais les premiers rapports indiquent que beaucoup ont pu s'échapper du centre commercial. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a publié une déclaration vidéo en réponse à l'attaque, appelant à ce que la Russie soit reconnue comme un État qui parraine le terrorisme.
This morning I appealed to the United States to recognize Russia as a state that sponsors terrorism. The relevant resolution is approved by a U.S. Senate committee and a legal decision can be made by the State Department. And such a decision is clearly needed and it must be supported by the entire democratic world. I told this to the participants of the G7 summit which took place in Germany.
Et on passe au reportage d'Arim Lipold pour Radio France Internationale.
L'Ukraine et les puissances occidentales ont vivement condamné la frappe russe. Le monde est horrifié, a déclaré le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken. L'attaque montre la cruauté et la barbarie de Vladimir Poutine, a déclaré de son côté le premier ministre britannique Boris Johnson. Et pour la France, Moscou devra répondre de ses actes. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, plus d'un millier de civils se trouvaient à l'intérieur du bâtiment au moment de la frappe. Les opérations de secours se poursuivent cette nuit, a précisé le président, ajoutant que le bilan humain pourrait être très lourd. Face à ce que Zelensky qualifie d'acte terroriste, l'Ukraine a effectivement demandé au Conseil de sécurité de l'ONU une réunion d'urgence ce mardi. Plus tôt dans la journée, le président ukrainien a expliqué aux dirigeants du G7 réunis en Allemagne que le moment de la négociation n'était pas encore venu. Il leur a demandé de renforcer l'aide en faveur de son pays afin de repousser les forces russes. Le G7, de son côté, a effectivement promis de soutenir l'Ukraine militairement et financièrement aussi longtemps qu'il le faudra.
L'Ukraine, toujours, les autorités locales affirment qu'il ne reste que quelques milliers d'habitants dans la ville de Sivirodonetsk après de violents combats et la prise de contrôle de cette ville par les Russes la semaine dernière. Le maire ukrainien de la ville désormais occupé par la Russie, Oleksandr Stroïk, a déclaré que certains habitants essayaient de retourner dans la ville depuis les territoires contrôlés et que certains essayaient de s'échapper. Il déclare que les quelques 8000 personnes qui vivent encore dans cette ville sur une ancienne population de 100 000 habitants sont désormais confrontées à une situation humanitaire difficile car un seul envoi humanitaire a été organisé par la Russie jusqu'à présent.
Systematically, humanitarian aid to the city is not taking place. The propagandists filmed as if some aid was brought and distributed, but it was a one-time thing to show for a television story.
Le président ukrainien a fait appel au groupe du G7 à aider son pays à mettre fin à la guerre d'ici la fin de 2022. Il a exhorté les nations à intensifier leurs efforts d'aide, à fournir des systèmes de défense anti-aérienne, à adopter de nouvelles sanctions contre la Russie et à aider aux exportations de céréales. Le président Zelensky a rencontré aussi la présidente de la Moldavie, Maia Sandu. La dirigeante moldave a déclaré qu'elle soutenait pleinement la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues.
By fighting for their freedom, Ukrainians fight for the freedom of your neighbors in Europe. We in Moldova understand and appreciate that.
Et le G7 envisage de plafonner les prix du pétrole russe pour limiter les conséquences de l'envolée des prix de l'énergie pour les pays consommateurs. Le reportage de Daniel Vallot pour RFI.
Plafonner les prix du pétrole russe aurait un double avantage aux yeux des États-Unis qui sont à la manœuvre pour imposer cette idée aux pays du G7. D'une part, réduire les ressources tirées du pétrole par la Russie. D'autre part, limiter les conséquences de l'envolée des prix de l'énergie pour les pays consommateurs. Mais pour l'heure, cette idée fait l'objet de discussions et de débats au sein du G7. Son application risque d'être complexe, souligne la présidence française qui aimerait explorer d'autres pistes face à la crise énergétique. La France souhaite par exemple que les pays producteurs produisent davantage de manière exceptionnelle. Paris estime qu'il faut également diversifier les sources d'approvisionnement, évoquant le pétrole iranien et vénézuélien, deux pays qui sont soumis à des sanctions américaines. Par ailleurs, les pays du G7 envisagent de revenir sur un engagement pris dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques, celui de ne plus financer les projets d'infrastructure dans le secteur des hydrocarbures. Depuis plusieurs jours, les ONG de défense de l'environnement s'inquiètent d'un possible revirement du G7 dans ce dossier.
La Suède déclare qu'elle est en discussion sur sa demande d'adhésion à l'OTAN au milieu des objections de la Turquie. La première ministre suédoise, Magdalena Andersson, a déclaré que la Turquie avait soulevé des questions concernant l'existence d'organisations terroristes dans la nation nordique et s'opposait également à la candidature de la Finlande. Mais elle déclare que la Suède a déjà répondu aux préoccupations turques.
Our stance regarding PKK is crystal clear. It is listed as a terror organization in the European Union and is regarded as such by Sweden. During the last years, we have several times strengthened laws against funding of terrorism. And Sweden's terrorist legislation is undergoing its biggest overhaul in 30 years.
Le Premier ministre australien Anthony Albanese est à Madrid pour la réunion du sommet de l'OTAN. L'Australie n'est pas membre, mais le Premier ministre a été invité dans le cadre de la première délégation officielle d'Asie-Pacifique à y assister aux côtés des dirigeants de la Nouvelle-Zélande, du Japon et de la Corée du Sud. En route, Anthony Albanese a fait une brève escale à Dubaï pour remercier les troupes australiennes pour leur service au Moyen-Orient. Il déclare que la guerre en Ukraine et les relations Indo-Pacifique devrait figurer parmi les priorités de l'OTAN.
At the moment, caused by Russia's aggression in Ukraine is a reminder of the unsafe world that we live in, and that our values of maintaining international rule of law, of maintaining a sense of order in the global environment. Is one that can't be taken for granted. It does have to be defended.
La ministre australienne de l'Environnement s'est adressée à un sommet des Nations Unies en Europe, déclarant à l'Assemblée que l'environnement était redevenu l'avant-plan sous la nouvelle direction du pays. Les commentaires de Tanja Plibersek ont été accueillis par des applaudissements lors de cette conférence des Nations Unies sur les océans dans la capitale portugaise de Lisbonne, à laquelle participent plus de 120 pays. La conférence demande aux dirigeants mondiaux à prendre davantage des mesures contre le changement climatique. On écoute Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies.
Sadly, we have taken the ocean for granted, and today we face what I would call an ocean emergency. We must turn the tide. Global heating is pushing ocean temperatures to record levels, creating fiercer and more frequent storms. Sea levels are rising. Low-lying island nations face inundation, as do many major coastal cities in the world.
En Australie, les données du recensement de 2021 ont été publiées, montrant que l'Australie devient plus multiculturelle et a doublé sa population au cours des 50 dernières années. Plus d'un million de nouveaux résidents ont été accueillis depuis l'étranger au cours des dernières années. Le mandarin est toujours la langue la plus parlée à la maison, autre que l'anglais, et près de la moitié des Australiens ont un parent né à l'étranger. Teresa Dickinson, du Bureau australien des statistiques, affirme que le recensement montre comment les schémas de migration évoluent.
The number of us who are first generation Australians, those born overseas, and second generation Australians, those with one or both parents born overseas, which includes me, has grown and is now over half the Australian population.
Un nouveau rapport a confirmé que le manque de personnel dans des maisons de retraite pour les personnes âgées a doublé en moins d'un an. L'économiste principal de la CEDA, le Comité pour le développement économique en Australie, Cassandra Windsor, affirme que si les pénuries de main-d'œuvre se poursuivent à ce niveau, il n'y aura pas assez de travailleurs pour répondre aux normes de soins de base recommandées par la Commission royale. Le nouveau gouvernement albanaise s'est engagé à améliorer la qualité des soins aux personnes âgées en incluant des infirmières autorisées 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le groupe responsable du blocage du pont du port de Sydney lundi a déclaré que les habitants devraient se préparer à davantage de problèmes de circulation dans les prochains jours. Le porte-parole de Blockade Australia, Jonah Shabtai, a déclaré que d'autres manifestations sont prévues cette semaine pour démontrer les perturbations qu'un effondrement du climat entraînera. Il déclare que le groupe se concentre maintenant sur les routes du CBD de Sydney. Et cette personne déclare que les manifestations étaient nécessaires.
We have so little time left to act. The science is very clear.
And this is the best way to get the message out.
We have tried every other way, believe me. We have tried everything.
L'homme accusé d'avoir tué deux personnes par balle et d'en avoir blessé plus de 20 autres personnes avant un festival de la Gay Pride à Oslo ce week-end dernier refuse d'être interrogé par les enquêteurs. L'avocat de Zaniar Matapour, un citoyen norvégien originaire d'Iran, a déclaré que son client s'opposait à ce que sa déclaration soit enregistrée et enregistrée sur bande vidéo, une procédure policière standard, à moins que les agents ne rendent l'intégralité de l'enregistrement public. La procureure Ingvild Myhrvold déclare que les autorités ne connaissent pas encore la raison de l'attaque si le suspect visait spécifiquement la communauté LGBT.
We have many hypotheses about what the background for the action may be. We take a closer look at his mental health, his political motives and background, and possibly who else he may have had contact with before this happened.
Les autorités sud-africaines enquêtant sur la mort de 20 adolescents dans une taverne au cours du week-end ont déclaré que les jeunes avaient probablement été tués par quelque chose qu'ils avaient mangé, bu ou fumé et non pas par une bousculade comme on le pensait auparavant. Le ministre sud-africain de la police, Bheki Cele, a déclaré que les autorités n'avaient pas plus de détails pour le moment. En Afrique, toujours en République démocratique du Congo, la dépouille de Patrice Lumumba, héros de l'indépendance, est arrivée hier à Kinshasa. Le cercueil est au Palais de la Nation pour quelques jours de deuil national. Le reportage de Paulina Azidi pour RFI.
C'est avec les drapeaux en berne que Kinshasa a salué l'arrivée de la dépouille de Patrice Lumumba. Le cercueil a été accueilli en milieu d'après-midi à l'aéroport de Ndjili par le président Félix Tshisekedi, le plus haut représentant de l'État pour renforcer le caractère solennel de cette dernière étape du voyage de Lumumba. Puis le convoi a pris la direction du Palais du Peuple, le siège du Parlement, où les élus du pays ainsi que les ministres et premiers ministres ont pu à leur tour défiler devant le cercueil. Selon le programme programme officiel. Il doit y rester jusqu'à mercredi. Ensuite, la dépouille ira à la résidence Lumumba, la maison de famille, et enfin au palais de la nation, à la primature, pour finir à l'échangeur de Limété, au monument qui porte son nom et où Lumumba doit être inhumé le 30 juin, 62 ans jour pour jour après son discours historique tenu lors de l'indépendance du pays.
Et on passe à la météo pour ce mardi en Australie, à Perth, il fera 18 degrés, Adélaïde 16, Melbourne 14, Hobart 15, Canberra 12, Sydney 17, Brisbane 21, Cairns 25, Darwin 29 et à Alice Springs, maximale de 15 degrés. En rappel des grands titres de ce 28 juin, les dirigeants mondiaux condamnent l'attaque au missile de la Russie contre un centre commercial ukrainien. Un nouveau rapport confirme l'ampleur de manque de main-d'œuvre dans les maisons de retraite pour les personnes âgées en Australie. Fin du journal et dans quelques instants, le journal des sports avec Marianne Murat.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.